politique.
Je me sens pas du tout gêné de refuser de l'énergie sale alors que nous, on offre d'énergie propre.
Not only is our product not dirty, but that it actually funds the schools, the hospitals, the roads, and potentially even some of the hydroelectricity infrastructure.
Le but de l'intervention de M. Legault n'était pas de faire la leçon aux Albertaines.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, dans l'ordre, vous avez entendu François Legault la semaine dernière, au terme de la conférence des premiers ministres, hein, sur l'énergie sale des Albertains. Par la suite, la première ministre de l'Alberta, Mme Notley, qui disait, ben là, c'est parce que c'est l'argent qu'on fait avec le pétrole, ça aide peut-être le Québec. Et Sonia Lebel, la ministre de la Justice et des Affaires intergouvernementales, qui réagissait. Pour analyser tout ça, Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Bonjour.
Et Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour, Carl.
Allô, allô.
Alors, Paul, vas-y donc sur le yarbe est aux vaches. Disons, puis comme on parle de l'Alberta, on pourrait dire le yarbe est aux bœufs.
Oui.
Hein?
Juste laisser le temps public de rire.
Ha,
bon,
ha, ha.
Oui, les rires se sont tus. Diantre, Bernard, a eu une autre crisette dans la Fédération à cause de la péréquation. Qui l'eût cru
oui.
que l'Ouest aurait été, comme on dit en latin, en sacrement? Après le Québec.
Et monsieur, tu sens tes gros mots?
Oui, oui. Écoute, comme toi, j'ai déjà été garçon de messe. Hein,
t'as déjà été servant de messe?
Non, c'est un mensonge.
Ah. Oh, boy.
Monsieur Legault a peut-être manqué un peu de finesse diplomatique.
C'était pas nécessaire.
D'aller dire que c'était du pétrole sale en majuscule.
Ben oui.
La journée ou la semaine où le Québec, on apprend que le Québec reçoit un gros chèque de la péréquation. Et aussi, alors que l'Alberta traverse une crise à cause du faible prix auquel elle vend son pétrole pour toutes sortes de raisons. Mais sur le fond, avait-il raison de dire que le pétrole était sale? La première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, on l'a entendu, elle dit « Notre pétrole, il n'est pas sale. » Mais je m'excuse, il est moins sale parce que c'est vrai que l'Alberta, depuis 10 ou 20 ans, à cause de l'innovation technologique, par baril, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre.
Beaucoup moins?
Ça dépend. Je n'ai pas un pourcentage exact, mais il y en a significativement moins. Par contre, il y a de plus en plus de barils.
Produits.
Oui, ouais. C'est ça.
Donc la quantité.
Je vais croire que par baril, on pollue moins, mais on a tellement augmenté la production qu'au net, il y a beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'il y en a en Alberta aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans. Et aussi, le pétrole albertain, des sables bitumineux, mais c'est un pétrole qui émet plus d'émissions de gaz à effet de serre que d'autres pétroles.
Oui.
Ouais, sauf que l'Alberta vient d'annoncer une réduction de la production parce que justement, ils sont pas capables de le sortir de leur province. Et donc là, évidemment, c'est pas l'objectif premier du gouvernement albertain, mais il y a deux conséquences à ça. Quand on réduit la production, mais on réduit l'offre, et donc ça peut faire monter les prix en même temps. C'est un peu une des conséquences des politiques actuelles là au niveau de l'environnement, de bloquer les projets. Que ce soit Énergie-S ou Trans Mountain ou autre, c'est y a un surplus en Alberta, une réduction de la production et donc une potentielle hausse des prix dans les prochaines semaines.
OK. Ouais.
Mais je pense que l'impact économique est beaucoup plus pour les producteurs qu'ils vendent moins cher que pour les consommateurs parce que là, on entre dans la dynamique du prix du pétrole là, qui est une dynamique qui peut être influencée par ce qui se passe sur l'ensemble de la planète. Puis ce que Carl dit est vrai. Par contre, reste que là, on regarde une photo là, à très, très court terme des derniers mois puis des prochains mois. Mais si tu regardes là, sur la dernière décennie puis ce qui s'en vient dans la prochaine décennie, reste qu'on s'aligne. Là. On devrait s'aligner vers une hausse continue de la production pétrolière.
En Alberta.
Oui,
d'abord et avant tout en Alberta.
Oui.
Alors donc, tu dis, Legault a raison de dire qu'il est sale, même si par baril, il est moins sale qu'avant. Cela étant dit, est-ce que c'était une bonne idée de le dire ouvertement? Je pense qu'on s'entend tous les trois pour dire que c'était pas nécessaire d'aller là.
Mes suggestions en matière de bon goût, Bernard, ça aurait été de dire tu te concentres pas sur la tare de ton voisin, tu te concentres sur ce que toi t'apportes de plus.
Ben oui.
Parce que je comprends aussi la logique de M. Legault, puis non seulement je la comprends, mais je l'appuie. Il dit le Québec a une énergie propre. Et on veut l'exporter
davantage. Ça, il aurait pu très bien dire ça.
Puis vous parlez jamais de nos surplus à nous d'énergie au Québec. Puis on veut vous en acheminer. Mais il y a moyen, au lieu de dire votre pétrole à vous, il est sale, de dire notre énergie à nous,
elle est propre.
Mais là, on est dans la diplomatie. Puis encore une fois, il n'a pas tort sur le fond. Et je me demande juste si c'était la meilleure semaine pour aller dire ça. Parce qu'on le sait, là, c'est quoi le discours en ce moment dans l'Ouest.
Oui, oui, oui.
C'est Québec, quêteux de la fédération, revoyons d'urgence la péréquation parce que ça n'a pas de bon sens.
D'accord.
C'est ça qu'ils disent, même si on n'est pas d'accord.
Mais là, Carl, moi, je veux savoir, tu as quand même des antennes en Alberta, toi, là? C'est un gouvernement NPD qui est là-bas, là.
Oui.
Bon. Moi, je veux savoir, est-ce que ça peut déraper, cette histoire-là? Parce que là, ça monte en... Tu nous en parlais hier, il y a un député conservateur qui va probablement être ministre si Kenney est élu premier ministre dans la prochaine élection, qui fait campagne là ouvertement pour un boycott des produits québécois. Jason Kenney va se faire élire, je pense, premier ministre, notamment en faisant campagne sur le dos du Québec. Puis il propose même, si je me trompe pas, que s'il est élu premier ministre, de faire un référendum en Alberta pour obtenir le mandat de revoir la formule de péréquation. Donc, essentiellement, exact. Faire un référendum sur le dos du Québec. Là, moi, je veux savoir, là, vous êtes analyste politique, les deux. Là, on s'en va où avec cette histoire-là? Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une crise politique entre deux provinces ou même deux régions?
Écoute, c'est très possible. L'Alberta, mais il faut comprendre, beaucoup de frustration qui sort de l'Alberta. Et c'est pas juste par rapport au Québec. Il y en a beaucoup par rapport à ses voisins de la Colombie-Britannique, évidemment, qui est l'endroit où le pétrole pourrait aller vers les marchés asiatiques. Et c'est refusé à tout bout de champ. Une bataille sans merci entre les deux gouvernements NPD de ces deux provinces-là. On parle beaucoup d'hypocrisie de la part des autres provinces qui ont des parcs automobiles immenses, qui utilisent du pétrole en masse, mais sauf que l'Alberta, c'est pas assez bon pour nous. Et ça, il y a une frustration qui est grandissante, et même Jason Kenney, il y a quelques mois, parlait ouvertement de la montée du séparatisme en Alberta. Je veux pas faire de crise d'unité nationale là-dessus, mais il y a pas tort qu'en Alberta, on se radicalise par rapport au reste de la fédération.
Mais je vois pas comment une Alberta indépendante va avoir plus de facilité à sortir son pétrole de chez elle, là. Franchement.
Ben, t'as absolument raison. Ça serait encore plus difficile.
Ça serait plus compliqué.
Je veux pas dire que c'est rationnel. Ça veut pas dire que c'est rationnel comme réaction.
C'est une menace, là, plus qu'évidemment un mouvement d'indépendance.
C'est sûr. Mais alors, Carl, donc, beaucoup de chiquages de guenilles, mais est-ce que ça va avoir des conséquences concrètes, là? À partir du moment où Justin Trudeau dit « Non, j'ai pas l'intention de changer la formule de péréquation au cours des 5 prochaines années, elle vient d'être renouvelée, je la garde », à partir du moment où il va probablement se faire laver, il y a quoi, 2 comtés libéraux, je pense, en Alberta, il va probablement y perdre tous les deux, il sait bien que c'est pas avec l'Alberta qu'il va garder le pouvoir aux prochaines, donc les récriminations de l'Alberta, de la Saskatchewan, il est premier ministre, il faut qu'il les écoute, mais sur le plan électoral, il sait qu'il n'y a pas grand-chose à gagner là. Fait que j'essaye de voir, je réfléchis à voix haute, là, j'essaye de voir où est-ce que ça nous amène, tout ça.
Il y a beaucoup des discussions actuellement et des déclarations qui proviennent de l'Alberta qui ont pour objectif de l'élection provinciale du printemps.
C'est ça.
Et c'est à qui défendra le plus fort l'Alberta. Donc, il y a un peu une surenchère à ce niveau-là. Mais bon, en termes de choses concrètes qui peuvent être faites, le gouvernement de l'Alberta peut pas vraiment rien faire par rapport à la péréquation à brève échéance. Cependant, on voit des gestes concrets du gouvernement albertain. On veut acheter des trains. Le fédéral va embarquer dans le projet. Là, il y a une raffinerie qui va ouvrir au printemps 2019. Le gouvernement de l'Alberta a annoncé hier qu'elle allait en ouvrir une seconde. Alors, il y a quelque chose qui se déroule présentement en Alberta. On veut défendre ses intérêts, mais les seules choses qu'ils peuvent faire, les seuls leviers qu'ils ont, c'est agir localement. Et c'est pour ça qu'on a ces annonces-là, parce qu'ils ne peuvent pas compter sur les autres provinces pour livrer leur pétrole.
OK. On va arrêter cela. On va s'arrêter parce qu'au retour, on veut parler quand même. C'était une grosse annonce, là, le plan de lutte à la pauvreté de la CAQ. Les méchants caquistes de droite, très idéologues, anti-pauvres. Ben là, en tout cas, c'est pas ça qu'ils annoncent aujourd'hui. Là. Ils annoncent quand même des assez gros montants d'argent pour les plus mal pris d'entre nous. Après la pause.
Drainville PM. Politique.
La pauvreté et l'exclusion sociale, il faut aller au-delà de la partisanerie. C'est au-delà des partis politiques. On veut vraiment exprimer ce matin notre volonté d'accroître le revenu disponible de ces personnes-là qui sont dans le besoin.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Ben, c'est essentiellement la première grosse annonce de ce ministre, Jean Boulay, que vous venez d'entendre, député de Trois-Rivières, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le Travail, Emploi et Solidarité sociale. Et ce matin, il a pris une annonce que les libéraux avaient fait, dis-je bien, puis il a décidé de la concrétiser, Paul.
C'est le verbe que j'avais choisi.
Lequel?
Il l'a concrétisé. C'est tout à fait ça.
Mais tu vois, Paul, à force de se côtoyer.
On déteint l'un sur l'autre, c'est tout à fait déplorable. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise annonce, Bernard? Tout dépend des attentes. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent que c'est une bonne annonce parce que mes attentes n'étaient pas hyper élevées. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'autant dans l'opposition qu'en campagne électorale, la coalition Avenir Québec faisait une espèce de quasi-obsession sur les familles de classe moyenne.
Oui.
Je comprends qu'il y a des gens qui en arrachent à chaque fin de mois pour joindre les deux bouts, mais les pauvres, c'est du vrai monde. Les personnes seules, elles aussi, elles existent. Les libéraux, le gouvernement Couillard avait fait une annonce pour augmenter les prestations pour les gens sur l'aide sociale avec des contraintes sévères à l'emploi.
Ils sont 84 000 au Québec.
C'est ça. Ça, c'est des gens qui, par exemple, qui peuvent avoir un problème de santé mentale, handicap physique, etc., ouais, qui sont pas capables de travailler.
Exact.
Les libéraux avaient augmenté ces sommes-là. La CAQ, c'est le seul parti qui avait pris beaucoup de temps avant de réagir parce qu'on sentait qu'il n'y avait pas de grands gains électoraux pour eux à faire, au contraire. Mais finalement, on l'a entendu, le nouveau ministre Boulet dit « c'est pas une question de partisanerie, la lutte à la pauvreté » et il reprend. Et l'annonce libérale, il la concrétise parce qu'il fallait confirmer tout ça pour des raisons budgétaires. Et la CAQ va de l'avant. Puis je trouve que c'est une bonne chose. Donc, donnons un peu de chiffres.
Oui, c'est ce que ça veut dire. Oui.
Parce qu'il faut rappeler que tu as deux, en gros, grosso modo, tu as deux catégories de gens qui bénéficient de l'aide de dernier recours, de l'aide sociale. Ceux qui ont une contrainte sévère à l'emploi. Ceux qui n'ont pas de contraintes sévères à l'emploi. Ceux qui ont de contraintes sévères à l'emploi, ce que les libéraux et maintenant la CAQ promettent de faire, d'ici 2023, ils vont augmenter significativement leurs prestations qui vont passer annuellement de 12 750 $ à 18 000. 18 000 $ écoute, t'es pas riche avec ça, mais le chiffre n'est pas arbitraire. On l'a choisi parce que ça équivaut à 100 % du panier de consommation. Donc, c'est le strict minimum, là, c'est ce qui te permet de survivre, de garder la tête au-dessus de l'eau. Écoute, tant mieux.
Okay.
Hein?
Okay.
Tu sais, survivre, je pense que c'est un objectif minimal dans la vie. Puis quand tu as des contraintes de cette nature-là, c'est pas un choix que tu fais de naître avec des problèmes de santé physique ou mentale.
Oh, ouais.
C'est un minimum de dignité humaine. Reste, par contre, l'autre cas, des personnes qui n'ont pas de contraintes sévères à l'emploi, ce que les libéraux avaient fait et ce que les gouvernements précédents voulaient faire, ils allaient avec la méthode carotte et bâton. Carotte, c'est-à-dire si tu suis un programme de formation à l'emploi, on augmente un peu tes prestations.
Oui.
Si tu ne la suis pas, on te pénalise.
C'est ça.
La logique étant que ben, y a peut-être des gens qui sont capables de travailler. Puis si tu augmentes trop les prestations à l'aide sociale, c'est un désincitatif à aller travailler. Donc, il faut les aider à s'aider. Ça a été très critiqué par plusieurs groupes de défense aux pauvres qui disaient, écoute, c'est même plus compliqué que ça. Pensez-vous vraiment qu'ils vivent richement en étant avec les prestations? Au contraire, là.
Oui, oui, mais là, t'as pas là, on leur dit, regarde, tu peux travailler. On est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Tu peux travailler. Ben va travailler ou va te former pour travailler. Ou retourne ses bancs d'école pour aller te chercher un diplôme. Et dans ces cas-là, on va augmenter ton aide sociale. Puis si tu ne veux pas aller te former ou si tu ne veux pas aller chercher ton diplôme, tu vas être pénalisé. C'est ça la logique.
C'est ça la logique. Mais le problème, c'est que le passé démontre que tu as plein de cas où les gens ne rentrent pas dans les bonnes cases, où ils sont échappés, où ça devient compliqué dans la gestion. Écoute, on ne refera pas le débat.
Ben moi, je pense la carotte puis le bâton à un moment donné. Là,
c'est ça, mais ça dépend juste de la grosseur de la carotte puis le bâton, à quel point il fait mal.
Oui, exactement. OK, Carl, je sais que tu voudrais enchaîner, mais je veux vraiment qu'on parle rapidement du député libéral Nicolas Diorio, parce que tu veux nous en parler. Il est réapparu pour la première fois.
Coup de théâtre. Bon. Première fois en 6 mois qu'il se présente en chambre. Il fallait qu'il aille se défendre parce qu'il y a une question de privilège qui a été soulevée par le NPD. Alors, il voulait aller défendre. Il dit qu'il travaille très fort pour ses concitoyens. Mais il a dit plusieurs choses qui sont intéressantes parce que, évidemment, c'est le député qui a démissionné, qui a pu démissionner, qui est encore là, mais qui se présente pas. Là, il laisse entendre que c'est pas nécessairement de sa faute. On peut écouter ce qu'il a dit hier.
L'initiative de ne pas être présent en chambre n'est pas la mienne. Les circonstances qui m'ont amené à ne pas siéger ne relèvent pas de ma volonté, ni d'aucun fait de ma part. Mon comportement a en tout temps été dénué de tout reproche. Je n'empoche aucun salaire de la Chambre des communes. La date prévue pour mon départ n'a pas été choisie par moi.
Ça m'éclaire pas beaucoup, là.
Pas beaucoup, hein? Mais écoute, la théorie présentement, c'est que c'est le cabinet du premier ministre qui lui a dit de démissionner le 22 janvier. Pourquoi le 22 janvier? Parce que la loi électorale qui a été adoptée, qui attend la sanction royale, prévoit qu'on ne peut plus déclencher d'élection partielle 9 mois avant l'élection prévue. Or, cette date-là, c'est le 21 janvier.
Bon. Fait qu'en démissionnant le 22, dans le fond, il fait en sorte qu'il n'y ait pas de partiel.
Pas de partiel.
Mais je ne suis pas capable de vérifier s'il ne reçoit pas de salaire de la Chambre des communes. Ça, on n'est pas capable de le vérifier.
Il n'en reçoit pas, mais bon.
Bon, tu sais.
C'est bizarre.
Bon, puis par ailleurs, il n'est pas venu à la Chambre des communes. Est-ce que les gens qui l'ont élu, les gens de Saint-Laurent-Saint-Michel...
Ils n'ont pas de représentants, malgré ses prétentions.
Ben non, voilà. Bon, écoute, on va en reparler. Ça reste très mystérieux, toute cette histoire-là. Carl Bélanger et Paul Journet, merci à vous deux.
Merci.
Salut. On se reparle demain. On continue tout de suite après la pause, les auditeurs.